de vous revoir.
Montez le micro, c'est ça. Bon, quelle joie de vous revoir, vous revoir à moitié. C'est le jeu des devinettes, bien souvent, n'est-ce pas? Ça fait des années que j'avais plus revu notre frère, le pasteur Moulinengo. J'étais tout jeune à l'époque dans le ministère et... Oui, d'accord. Donc, je m'appelle Jean-Luc Piret. Voilà, donc, je suis né à Marseille, j'ai grandi à Marseille et j'ai démarré sur Marseille l'œuvre qui s'appelle Ésaïe 55. Voilà, donc, depuis 3 ans et demi maintenant, nous sommes sur Charmes-sur-Rhône où le Seigneur nous a invités à émigrer. Donc, c'est vrai que il y en a qui m'ont précédé. Quand M. Moulinengo a décidé de quitter Marseille pour rejoindre l'Ardèche. Et puis, quelques années plus tard, un de mes autres amis, Pierre Audon, a aussi décidé de quitter Marseille pour rejoindre l'Ardèche. Je ne pensais pas arriver un jour en Ardèche. Mais je suis très heureux, puis très heureux aussi de franchir le Rhône pour être en Drôme. Je suis certain que le Seigneur nous y a conduits et je n'ai aucune nostalgie par rapport à la ville qui m'a vu naître. Je suis vraiment heureux de cette nouvelle page que le Seigneur me donne de vivre. Mon épouse également, nous sommes heureux de cette nouvelle page qui s'est tournée. Alors j'aurais bien aimé que Annie soit là ce matin. Mais je le dis tout simplement pour que vous puissiez prier pour ça. Depuis le fameuse petite bestiole là qui a couru un peu, eh bien, certains malaises se sont installés chez les uns, chez les autres. La crainte peut-être aussi, donc, de se retrouver avec plus de monde, etc. Bon, un sujet de prière. Le Seigneur sait toutes choses. Bon, elle reste pas moins attachée au Seigneur. Bon, elle suit le culte sur Internet. Moi, je sais que si j'ai besoin de la communion fraternelle, j'ai besoin donc chaque dimanche de me joindre à une assemblée. Et je suis content aujourd'hui d'être avec vous. Voilà, donc c'est Étienne qui m'a téléphoné il y a quelques jours pour voir si je pouvais être là ce matin. Alors, quelle joie de savoir que Étienne donc a non seulement été au mariage de son fils et de sa belle-fille maintenant, mais qu'aujourd'hui, eh bien, il y a un service de baptême. C'est extraordinaire, vous trouvez pas? Le Seigneur est fidèle. Le Seigneur est fidèle, il prend soin de nous, il s'occupe de nous. Voilà, donc, j'ai eu à cœur, donc, de vous apporter une lecture et puis une exhortation. Donc, on retrouve ce passage, le passage que nous allons lire dans l'évangile de Luc au chapitre 14 et donc verset 15. Mais juste avant ça, parce que souvent, eh bien, on prend un passage et puis on oublie de citer le contexte. Donc, c'est un jour de sabbat et Jésus a été invité par un des chefs des pharisiens pour prendre un repas. Souvent, Jésus a été invité pour prendre un repas. Alors, quelquefois, lorsqu'on prend un repas chez des amis, on est détendu, on peut profiter des mets qui sont sur la table, parler tranquillement. Mais lorsque Jésus était invité à un repas, c'était pas tout à fait le cas, n'est-ce pas? Il était observé. Et là, il y avait un malade. Est-ce que ce malade était là, oui, il était là pour être guéri. Mais est-ce que on avait placé ce malade devant Jésus pour voir un petit peu ce qu'il allait faire? On peut le penser aussi. Qu'allait-il faire devant ce malade un jour de sabbat? De même que Jésus est observé dans ses faits et gestes, et aussi dans ses paroles, attendons-nous à être observés? Nous sommes observés. On est observé, oui, quand on va quelque part, quand on va à un repas. On est observé, on est tout le temps observé, je crois. Nos voisins nous observent. aïe aïe aïe, si lorsque j'arrive au coin de ma rue, je respecte mal le stop. Ça vous arrive?
Jamais.
Je croyais recevoir une consolation. J'essaye. L'autre jour, je me suis surpris à ne pas le respecter. On est observé. Observé, on a vraiment besoin de toute la grâce de Dieu pour être de bons ambassadeurs, vous trouvez pas? Quand je préparais le message, je me disais, ah Jean-Luc, combien de fois tu as encore raté l'occasion? Tu es passé à côté. Lorsqu'on se retrouve au milieu de beaucoup de monde, nous sommes peut-être invités, j'étais il n'y a pas très longtemps sur Marseille et la mairie d'Allo où j'étais avant, j'avais reçu une convocation pour la rencontre des associations. On a toujours une association sur Marseille. Et là, bon, il y avait un joli buffet qui était là. Et ces jours derniers, je me suis dit, Jean-Luc, peut-être que tu as plus fait attention au buffet qu'aux gens qui étaient là. Bon, j'ai quand même pu parler à quelqu'un. J'ai quand même pu parler à plusieurs personnes. Mais c'est vrai qu'on est attiré par les bonnes choses qui sont sur une table. Seigneur, aide-moi dans toute ma conduite, dans mes paroles, dans mes regards. Mes regards. Que je sois un bon ambassadeur. J'ai noté une deuxième leçon. Jésus va à son tour observer les autres invités, ceux qui choisissent les premières places. Oh, vous allez me dire que c'est uniquement pour le peuple juif, ça, non? Mais quelquefois, d'ailleurs je me suis assis au premier rang ce matin. J'aurais dû m'asseoir au fond normalement et attendre qu'on me dise « mais avance ». J'ai encore raté. Les places en vue. Ceux qui nous gouvernent cherchent les places en vue. On ne va pas parler des élections qui s'approchent et de ceux qui recherchent une place en vue. En tout cas, troisième leçon, dans le contexte, c'est que Jésus va utiliser le fait qu'il est invité pour parler du royaume de Dieu et évoquer la résurrection des justes. Je crois que nous ne devons pas oublier lorsque nous sommes quelque part, que justement nous sommes des ambassadeurs. Nous sommes là pour représenter le Seigneur. Et dans sa grâce, être prêt, s'attendre, se laisser conduire, pour que il nous inspire dans ce que nous allons dire. Oh, on ne doit pas automatiquement dire quelque chose. De toute façon, on est observé. Or déjà, on va pouvoir dire quelque chose sans parler. Que le Seigneur déjà nous aide à lui être agréable, à bien le représenter, même sans parler. Mais le Seigneur peut disposer des conversations, disposer des choses pour qu'on puisse évoquer ben, notamment la résurrection. Parce qu'après tout, c'est bien le principal, n'est-ce pas? Où c'est que nous allons aller? Qu'est-ce qui va se passer après? La question que certainement beaucoup se posent ou devraient se poser. On essaye bien sûr de mettre ça de côté ou de le prendre un petit peu avec quelques boutades. Avant le Covid, lorsque quelqu'un toussait ou éternuait, on se permettait quelquefois de dire « Oh, ça sent le sapin ». chose que l'on peut plus vraiment dire, n'est-ce pas? À tel point que lorsque quelqu'un toussait dans une pièce, tout le monde s'inquiétait. Jésus donc va utiliser le fait qu'il est invité pour parler du royaume de Dieu et évoquer la résurrection des justes. C'est ce que nous lisons au chapitre 14, verset 15, enfin, au verset 14 même, plutôt verset 12, il dit aussi à celui qui l'avait invité, « Lorsque tu te donnes à dîner ou à souper, n'invite pas tes amis, ni tes frères, ni tes parents, ni des voisins riches, de peur qu'ils ne t'invitent à leur tour, et qu'on ne te rende l'appareil. Lorsque tu donnes un festin, invite les pauvres, des estropiés, des boiteux, des aveugles, et tu seras heureux de ce qu'ils ne peuvent pas te rendre l'appareil, car elle se sera rendue à la résurrection des justes. » Et voilà que la perche est étendue. Un de ceux qui est à table, après avoir entendu ces paroles, dit « Heureux celui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu. » Et Jésus lui dit « Un homme donna un grand dîner et il invita beaucoup de gens. À l'heure du dîner, il envoya son serviteur dire aux invités « Venez, car tout est déjà prêt. » Mais tous, unanimement, se mirent à s'excuser. Le premier lui dit « J'ai acheté un champ et je suis obligé d'aller le voir. Excuse-moi, je te prie. » Un autre dit « J'ai acheté 5 paires de bœufs et je vais les essayer. Excuse-moi, je te prie. » Un autre dit « Je viens de me marier et c'est pourquoi je ne peux pas venir. » À son retour, le serviteur rapporta ces choses à son maître. Alors le maître de la maison, en colère, dit à son serviteur « Va vite sur les places et dans les rues de la ville, et amène ici les pauvres, les estropiés, les boiteux et les aveugles. » Le serviteur dit, « Maître, ce que tu as ordonné a été fait, et il y a encore de la place. » Et le maître dit au serviteur, « Va dans les chemins et le long des haies, et contraigne les gens à entrer, afin que ma maison soit remplie. Car je vous le dis, aucun de ces hommes qui avaient été invités ne goûtera de mon dîner. » Bien sûr, on pourrait parler de ce que Jésus s'adressait aux Juifs et que peut-être le peuple d'Israël avait refusé l'invitation. Certes. Mais je préfère voir cette parabole qui s'adresse à nous aujourd'hui. Nous avons fait tout ce que tu as ordonné, il y a encore de la place. Il y a un peu plus de 2 ans et demi, j'étais sur Chambre, on logeait dans les bureaux, avant que le Seigneur pourvoie pour qu'on puisse acheter une maison dans la vallée des Rieux. Et là, en lisant ce passage, j'ai vraiment été interpellé. Vous imaginez ce serviteur qui dit, nous avons fait tout ce que tu as ordonné. Ça, c'est extraordinaire. Pour quelqu'un qui a des responsabilités, pour un chef d'entreprise, de voir que le travail a été fait, accompli, terminé, dans les temps, c'est extraordinaire, vous ne trouvez pas, déjà. Mais là, ce serviteur va plus loin. Il va rajouter, et il y a encore de la place. Et j'ai vraiment été interpellé par ça. Normalement, quand on a fait son boulot, on n'en cherche pas encore. Hein. On ne cherche pas à faire quelques heures supplémentaires. J'ai fait ce que je devais faire. Terminé. C'est bien. Bon, c'est vrai que si le patron me rajoute quelque chose, mais peut-être que je ne vais pas lui tendre la perche en disant « il y a encore de la place ». N'oublions pas que c'est Jésus qui a imaginé cette petite histoire. Les paraboles, ce sont des histoires basées sur la vie courante que le Seigneur imagine ou utilise en observant. Et lorsqu'il donne une parabole, il a un but. Et j'ai été interpellé par ce serviteur. Ce serviteur que je dirais idéal. Jésus lui-même, déjà, est le serviteur idéal. Il est le serviteur idéal envoyé par le Père. Et il est notre modèle. Alors, quel exemple tirer, là, de ce serviteur idéal? Juste après, le Seigneur va donner l'ordre suivant. Va dans les chemins et le long des haies et contraint les gens à entrer afin que ma maison soit remplie. Car je vous le dis, aucun de ces hommes qui avaient été invités ne goûtera de mon dîner. Va dans les chemins le long des haies. Et ce passage m'a poursuivi. Jour férié, alors que c'était, je ne sais plus quelle époque exactement, enfin, en tout cas, il faisait pas chaud, j'ai pris mon vélo à partir de Chambres et j'ai roulé sur la Via Rona jusqu'à Guilleur-en-Grange. Et là, j'ai vu plein de gens. Oh, c'était un dimanche ou un autre jour férié. Il y avait plein de gens, les enfants qui jouaient, les trottinettes, quelques ballons. Et je me suis dit, c'est là que l'Église devrait être. C'est là qu'on devrait être. Quelque temps après, j'ai repris mon vélo, j'ai refait une tournée, et puis j'ai prié le long du chemin. Le long du chemin, le long du Rhône, le long des haies. C'est vrai que nous sommes bien, et c'est nécessaire, le culte. On est bien aujourd'hui dans la maison, de se retrouver, de louer le Seigneur. On reprend des forces pour la semaine que nous commençons. Mais souvent, je ne veux pas dire qu'on oublie qu'il y a encore de la place. Oui, ce matin, il y a encore de la place, parce que plusieurs ne sont pas là. Mais quoi qu'il en soit, même si ce lieu de culte était plein, est-ce que ça suffirait? Il y a encore de la place. Il y avait un chant que un pasteur aimait chanter, « Dans la maison de mon Père, il y a de la place. » Il y a de la place dans la maison du Père. Et ça m'a poursuivi. J'ai dit, si on arrivait à mobiliser les chrétiens d'une église pour sortir sur... Le long de la Drôme, le long du Rhône. J'habite dans la vallée des Rieux, le long des Rieux. Et tout à l'heure, je vous écoutais chanter, et je me disais, si l'assemblée qui est là se retrouvait dehors pour chanter. J'ai eu exactement la même pensée lorsque j'ai été dans l'assemblée de frères de Guilleur-en-Grange. Je sais pas si vous avez eu l'occasion de visiter cette assemblée, mais alors ils chantent particulièrement bien. Mais vous chantez bien aussi, vous inquiétez pas. Ils chantent à quatre voix. C'est vraiment extraordinaire. Et quand je les entendais chanter, j'ai eu la même pensée, j'ai dit, s'ils se retrouvaient le long du Rhône à Guilleur-en, pour chanter comme ça dehors, peut-être qu'il pourrait y avoir une petite table, quelque part, avec quelques évangiles. Vous savez, par le chant, le message passe, plus qu'on l'imagine. Donc ça m'a poursuivi, ça me poursuivait. Tous les troisièmes samedis du mois, on a mis en place une réunion de prière dans notre entrepôt à Charmes pour prier pour le travail, pour l'œuvre, pour l'évangélisation, pour tout ce qui peut être fait à droite, à gauche, par les uns et par les autres. Et un jour, je leur ai partagé ça aussi, donc de sortir. Et puis, pendant ce temps de prière, on a chanté. Et je me suis dit, mais après tout, à Guy Rengrand, il chante bien. Mais ici aussi, il chante bien. Il y avait, parmi les personnes qui étaient venues prier, il y avait Pierre Carrère et son épouse Christiane de l'Armée du Salut. Et puis d'autres. Et puis, il m'a dit, Jean-Luc, tu as raison. Il faut que l'Église sorte. Il faut qu'on sorte. D'ailleurs, tout à l'heure, on peut continuer de prier pour que le ciel se dégage, mais l'Armée du Salut de Valence a prévu une sortie, un temps d'évangélisation. Donc, voilà, rendez-vous à 13h30 dans les locaux de l'Armée du Salut. Il y aura un temps de, pour ceux qui veulent rester dans la salle, un temps de prière, un temps de partage. Il y aura aussi ceux qui iront au parc Jouvet, où un frère de l'Armée du Salut qui, m'a-t-on dit, chante très bien du gospel, avec un petit groupe, viendra chanter, mais chacun pourra chanter aussi. Il y aura aussi sondage dans la rue. Il y aura également une marche de prière. Quand je vois le major Carrère et son épouse, ils ont un tel désir d'annoncer l'évangile. Et souvent, il est désolé, il dit, l'Armée du Salut, c'est plus que c'était. On s'est connu à Marseille, il est resté, je crois, 7 ans à Marseille. Et il est là dans le secteur depuis 3 ans. Voilà, ça c'est pour tout à l'heure. Et puis, lorsque j'ai parlé de ça, quelques jours après, j'ai reçu des mails, me dit, alors, quand c'est qu'on sort? Ah, si il commence à aller plus vite que moi, c'est bon signe, il va falloir que je cours. Quand c'est qu'on sort? Alors j'ai répondu, ben, oui, mais on commence par quel endroit? Alors il y a Claude Petman qui habite vers Valence-le-Haut et qui a vraiment à cœur les quartiers difficiles, les migrants. Il dit, ben, on commence par chez moi, à Fombardette. Donc, on a prévu ce temps, nous sommes allés chanter à Fombarlette. J'ai une de mes voisines me dit, tu vas à Fombarlette. Attention, tu vas garer ta voiture. Hein. Mais j'ai trouvé que Fombarlette, c'était pas si difficile que ça. Faut dire que je viens de Marseille. On a pu chanter. On était une quinzaine, je crois. Et puis, on a quand même pu partager avec des personnes qui écoutaient. Un monsieur d'origine algérienne, puis d'autres. Sortir. Et on a intitulé pour ce soir, ce petit appel à rejoindre l'Armée du Salut, « Sortons de nos murs ». J'aime, quand j'ai fini ma journée, j'aime aller me promener, marcher, et quand il fait beau, nager. Et je remercie le Seigneur parce que dans la vallée de Rieux, il y a un super coin pour aller nager. On m'a dit qu'il y en avait aussi dans la Drôme, mais ça me fait un peu plus loin, donc j'ai pas encore essayé. Donc je gare ma voiture, je marche un peu, et puis je vais dans un endroit qui s'appelle le gouffre de Pompierre, il y a un superbe endroit pour nager. Ça me rappelle un petit peu les calanques de Marseille. Bon, l'eau est pas salée. Bon. Mais c'est fou le nombre de personnes que le Seigneur me permet de rencontrer. Et puis, les gens se souviennent. Des fois, je revois quelqu'un un an après, il n'y a pas très longtemps, il me dit, alors, où c'est que vous en êtes? Vous avez organisé quoi cette année? Le gars s'était souvenu qu'il m'arrivait d'organiser des concerts ou autre. On est surpris de comment le Seigneur conduit les choses. L'année passée, malgré le Covid, en juillet, on a pu organiser un concert à Rompon. Et là, je vais, juste la veille, je me dis, je vais aller nager un petit peu. Et j'ai un autre ami, Emmanuel Vermes, qui me dit, ben écoute Jean-Luc, je vais avec toi. Et on s'est retrouvés donc un petit peu tard pour aller nager à la rivière. Et il y avait un couple qui était là au bord de l'eau, qui avait nagé. Bon, c'était des gens de passage, des touristes. Et puis bon, on a fini notre temps de baignade et puis on partait. Et Emmanuel me dit, Jean-Luc, tu les as invités pour demain ? D'habitude, c'est vrai que je l'aurais fait. Alors je dis non. Donc on a vite fait demi-tour. Et puis, il y avait un flyer qui était dans le sac et on a invité ce couple à aller au concert. Bon, je ne les ai pas vus au concert le samedi, mais j'ai appris qu'ils y étaient. Et le soir, ils ont eu une longue conversation avec la famille Audon. Et le lendemain, le dimanche, encore, ils ont même mangé avec eux. Ce couple était de passage, je crois, de la région parisienne, du nord, je ne sais plus. C'est sûr que, à moins que le Seigneur les fasse déménager, on ne les verra pas ici, à L'Oriole, ou dans un autre lieu de culte de la région. Mais ils ont entendu. Le long des chemins, le long des haies. Le Seigneur nous donne des occasions extraordinaires. Alors j'ai eu à cœur aussi, durant l'été, à essayer de trouver quelques personnes prêtes à venir au bord de l'Eyrieux. J'ai repéré un endroit où beaucoup de gens vont pique-niquer, faire un barbecue, nager. Et il y a du monde le vendredi soir, le samedi soir, le dimanche. Et on y est allé quelques fois le dimanche après-midi. Bon, on a mené quelques feuilles de champ, un petit carton avec quelques brochures pour enfants, quelques évangiles, quelques autres brochures. Bon, on a été nager, mais pas que. On a pu prier, on a pu chanter, et ça nous a permis quelques contacts. Bon, ça va prendre son temps, mais le Seigneur organise. Je crois que c'était la première fois qu'on y allait, il y avait un gars un peu plus loin qui avait une guitare, un groupe d'hommes, et on est venu nous trouver en disant, notre guitariste aimerait bien jouer avec le vôtre. Alors du coup, ben, on s'est déplacé jusqu'à vers eux. Et on a pu partager, on leur a fait chanter quelques cantiques. Et il y avait un certain Youssef qui a été particulièrement interpellé. M'a laissé son numéro de téléphone de temps en temps, je lui ai envoyé un petit message disant, bon, nous serons de nouveau à L'Eyrieux. Il me remercie, bon, je ne l'ai pas vu revenir. Mais quoi qu'il en soit, il a été interpellé. Et on a pu lui laisser une brochure. On a distribué notamment cette brochure, La paix avec Dieu, pleine de bons versets. Une autre fois, je vais à la rivière et là, il y a un endroit où vraiment je peux pas passer en voiture. Certains le font, mais moi je peux pas. J'ose pas. Il y a vraiment un gros creux. Donc on marche, et à cet endroit-là, il y avait un homme accroupi qui essayait de niveler un petit peu le terrain. Alors je m'arrête et je lui dis, vous êtes en train de préparer le terrain. Il me dit, oui, comme ça vous pourrez passer tout à l'heure. Puis il se relève, il me dit, mais on se connaît. Vous vous rappelez pas les poules? Je vais vous dire ce qui s'est passé avec les poules. Un an auparavant, peut-être, ou un peu plus, j'avais été là, à cet endroit, avec ma femme, ma fille, mes petits-enfants. Et il y avait, non loin de nous, un homme avec des poules. Vous avez déjà vu des poules au bord de la rivière, vous? Moi, c'était la première fois, en tout cas. Et avant de partir, je me suis dit, je vais quand même m'approcher de cet homme. Et j'ai commencé à lui dire quelques mots. Si vous permettez que je prenne une photo, parce que bon, j'ai déjà vu des gens avec des chiens. J'étais marseillais, j'ai dit des chats peut-être. Bon, j'ai jamais vu de chat au bord de la rivière, mais bon. Mais des poules, c'est la première fois. Alors il me dit, c'est comme mes enfants. Je les ai sur mon balcon, j'emporte leur cage. Puis vous savez, le soir, à la tombée de la nuit, elles rentrent toutes seules dans leur cage. Alors bon, on a un petit peu parlé. Et puis, au bout d'un moment, il me dit, j'ai dit, d'où venez-vous? Il m'a expliqué d'où il venait. Après, il m'a dit, d'où venez-vous? Donc, j'ai dû lui expliquer un petit peu d'où je venais, de ce que je faisais un petit peu dans le coin. Et puis, j'ai dû lui glisser que j'étais pasteur. Il m'a dit, je me doutais bien qu'il y avait quelque chose. Et j'ai pu prier avec lui. Et donc, en retournant à la rivière, un an après, un an et demi, eh bien, de nouveau, j'ai rencontré cet homme. Et il me dit, justement, on me parlait de vous hier. Alors, pendant ce temps, le groupe avec qui j'étais était devant et marchait en allant vers la rivière. Bon, j'ai prié, j'ai reloué le Seigneur. Du coup, je suis en train d'oublier son prénom à ce gars. Un prénom musulman. Et j'ai rejoint le groupe et j'étais tout heureux, je marchais, je souriais, j'ai dit, ça y est, j'ai mon cadeau. C'est un cadeau que le Seigneur nous fait lorsqu'il nous donne de parler de lui. Il y a quelque temps, j'ai eu Samuel Grandjean au téléphone et il me disait la même chose. Il me dit, Jean-Luc, chaque jour, je prie pour le cadeau que le Seigneur a en réserve pour moi, les contacts que le Seigneur lui donne, malgré qu'il soit en maison de retraite. Le Seigneur lui donne plein de possibilités de témoigner. C'est extraordinaire. Voilà, ça c'est dans les chemins, le long des haies, le long de la Drôme, le long du Rhône, et puis d'autres rivières. Aller à la rencontre des gens qui sont loin de l'Église. Dans les personnes qui étaient là au repas, lorsque Jésus a été invité, bien sûr, c'était des Juifs qui avaient une pratique, donc ils pratiquaient leur foi avec, bien sûr, beaucoup de traditions. Ils avaient connaissance de l'Écriture et lorsque Jésus parlait, ça pouvait faire écho. Alors bien sûr, quand on voit que ensuite Jésus donne cette parabole et envoie ses serviteurs dans les rues, dans les carrefours, bon, on peut penser que ça peut toucher aussi ceux qui ne sont plus à la synagogue. Mais pensons plutôt, nous, à l'Église. Lorsque tout à l'heure on va aller dans Valence avec l'armée du salut, peut-être qu'on peut toucher des gens qui ne vont plus dans une église, ou alors des gens qui ont un petit peu oublié le chemin. Mais aussi, on y voit là, dans cette parabole, les chemins lointains pour aller vers les païens. Quoi qu'il en soit, sortir de nos murs pour toucher les autres. Trouver des idées. Seigneur, donne-nous de l'imagination. On est vraiment coincé avec ce problème sanitaire, vous trouvez pas? Comment faire pour organiser quelque chose? On a essayé d'organiser un concert il y a quelques jours à Saint-Laurent-du-Pape, en plein air. Il a fallu installer des barrières, il a fallu installer le contrôle du pass sanitaire. Compliqué, hein? Oh, on a bien mis, malheureusement, j'avais pas prévu la sono comme ça. On a bien mis quelques bancs de leur côté dans la barrière pour ceux qui n'avaient pas le pass. C'était pénible, vraiment pénible. Comment faire? Comment, Seigneur, donne-moi des idées, comment vais-je faire pour toucher les autres? Je lisais que certains ont pensé dans les forêts, dans les lieux de campagne, de promenade, de poser simplement une table. avec personne autour de la table. Puis quelques bibles, quelques ouvrages. Et puis, bon, les gens passent et se sont servis. Un jour, j'ai une amie qui vient nous aider pour préparer les colis. Elle m'appelle, elle me dit, Jean-Luc, tu sais ce que je suis en train de faire, pour ceux qui la connaissent, c'est Chantal Baumann. Elle me dit, je suis en train de préparer des petits sachets avec un évangile et une ficelle, des sachets plastiques. Et là, donc, elle me dit, je vais les accrocher lorsque je vais aller me balader sur ces lieux de balade. Donc, j'ai vu des photos, un évangile, donc, accroché dans un arbre, avec un petit mot, servez-vous. Le Seigneur lui a donné des idées, de l'imagination. Elle a fait dernièrement, le chemin des Huguenots, je ne sais plus de quel endroit, et ils ont accroché pas mal d'évangiles comme ça sur le chemin. Seigneur, donne-moi des idées, comment toucher l'autre. J'habite un lotissement, et là, quand nous sommes arrivés, j'avais pensé que je pourrais peut-être inviter mes voisins pour prendre un pot, puis rapidement, il y a eu ce problème, Covid. Et, bon, il y a une association, donc, du lotissement, et je me suis dit, j'aimerais inviter mes voisins. Et, depuis un peu plus d'une année, j'ai quelque chose qui me travaillait. Je vais avoir 70 ans bientôt. Et il y a un an, j'ai dit à ma fille, Annelise, l'année prochaine, j'aurai 70 ans. Eh bien, pour mon anniversaire, je vais faire un concert d'évangélisation. Elle me dit, papa. Elle voyait de nouveau le papa qui organise encore quelque chose. Et organiser un concert d'évangélisation dans une salle, pas évident. Je voulais le faire dans mon jardin. Mais le 28 octobre, c'est peut-être pas la meilleure saison, vous trouvez pas? Alors j'ai téléphoné à Pat Burning, je lui ai demandé est-ce que tu serais libre? Et on a regardé deux dates avec son équipe, et il y avait fin août et début septembre. Et j'ai choisi début septembre, le 4 septembre. Et vous savez à quoi ça correspondait le 4 septembre? À nos 45 ans de mariage avec mon épouse. Et on a utilisé cette occasion, ce prétexte, de ce double anniversaire en quelque sorte, pour inviter les voisins. Le matin, je dis à mon épouse, imagine, ils vont venir pour une réunion d'évangélisation. Elle me dit, oui, le problème c'est qu'ils ne le savent pas. Peut-être qu'il faudrait être un peu soft. En tout cas, on a installé un podium dans le jardin. Le groupe s'est installé, donc il y a eu une sono, tout était vraiment bien fait. On a fait un apéro, un repas, etc. Ça s'est super bien passé, super bien passé. Les voisins ont vraiment écouté. Et ils sont venus trouver l'un et l'autre, mon épouse, ma fille, le groupe, pour montrer que vraiment ils étaient super heureux d'entendre. Et Pat Burnick a chanté des psaumes. Entre autres, c'est très bien passé. Je suis sûr que quelque chose se débloque avec les voisins. Seigneur, comment faire pour toucher le voisinage, pour toucher les gens? Seigneur, donne-moi des idées, que ce soit lorsque je vais marcher, lorsque je vais nager, lorsque je vais chez le commerçant, lorsque, que le Seigneur nous aide à être à l'écoute. Nous avons fait tout ce que tu as ordonné, et il y a encore de la place. Il y a encore de la place, les amis. Contraint-les d'entrer. Waouh, ça fait couler beaucoup d'encre. Certains y ont vu la possibilité de faire entrer avec violence, mais bon, non, c'est pas ça du tout. On retrouve le même verbe d'ailleurs dans l'évangile ou dans les actes. Dans les actes, lorsque cette Lydie, qui était au bord de la rivière, presse Paul de venir chez elle. C'est le même verbe. Alors, il n'a pas été avec violence, mais elle a insisté. Donc, non pas parce que nous allons les convertir de force, ou encore en leur bourrant le crâne, mais tout simplement avec l'amour de l'Évangile. Si je suis passionné par l'Évangile, si je vis l'Évangile, si le Seigneur a changé ma vie, si le Seigneur me donne de vivre de lui, de rayonner de lui, le Seigneur va conduire les choses pour les contraintes d'entrée. Est-ce que ses voisins seraient venus ici à L'Oriole si je les avais invités? Pas sûr. Et même si j'avais eu une salle dans le village. Mais là, ils sont venus, ils ont entendu. Je suis descendu à Marseille le lundi, et quand je remontais le mardi soir, de suite il y avait un voisin, il m'a dit « Ah Jean-Luc, c'était super !» Et puis, à peine terminé, une autre voisine qui s'arrête m'a dit, et qui commence à me parler. On s'était jamais parlé. Et à un moment donné, elle me dit, elle s'est confiée certaines choses, elle me dit, à vous je peux en parler. C'est différent, les rapports vont être différents. Sortir de nos murs. Contraindre, c'est aussi que nous soyons un modèle. Et ça, je ne le suis pas toujours, pour respecter les stops, par exemple. Je dois faire encore plus attention. Lorsque, peut-être, nous parlons, Seigneur, aide-moi. Aide-moi à ce que je sois ce bon ambassadeur. Conduisez-vous avec sagesse, nous dit l'Écriture, en Colossiens 4, 5, 6. Enverse du dehors et rachetez le temps. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre. Il y a dans Matthieu 5, 13, 16, vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi le lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. Alors, dans une traduction français courant ou encore dans la seconde 21, ce qu'on traduit, on pensait plus intéressant de mettre on n'allume pas une lampe pour la mettre sous un seau. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais un seau, c'est pas un boisseau. Vous savez à quoi ça sert un boisseau? Pour mettre le raisin, ensuite. Pour mesurer le blé. Pour mesurer la quantité. Donc c'est un instrument de mesure. Et moi je suis persuadé que si le Seigneur Jésus a utilisé ce mot-là, il aurait pu utiliser un autre mot. C'est qu'il y a quelque chose à apprendre là. Mesurer. Ne pas mettre sa lampe sous un boisseau. Ce serviteur-là n'a pas mesuré. Il a dit, on a fait tout ce que tu as ordonné et il y a encore de la place. Il était prêt à bosser encore. Trop souvent, on mesure avec le Seigneur. Oh, on dit bon, j'ai besoin de faire un peu de sport, j'ai besoin de ceci, j'ai besoin de cela. Oh, on n'a pas le temps de ci, pas le temps de ça. On mesure, on mesure. On mesure combien on donne. On mesure combien de temps on laisse au Seigneur. Bon, à Marseille, les partisans du foot sont prêts à vouloir une prolongation. Je ne sais pas si on veut toujours une prolongation à la fin du culte. On est prêt à passer du temps devant la télé, devant un écran. Là, on mesure moins. Honnêtement, quelquefois, on mesure trop avec le temps qu'on consacre au Seigneur. Enfin, pour ma part, Boisseau, je le vois comme ça. Ma lampe, elle ne doit pas briller uniquement aux heures que ça m'intéresse, n'est-ce pas? Elle doit briller quand je conduis, que je puisse respecter la limitation de vitesse, etc. Elle doit briller, elle doit pas être sous le boisseau. Il y a encore de la place. Le Seigneur Jésus dit à ses disciples, il y a de nombreuses demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Est-ce que tu crois qu'il y a aussi de la place pour ton voisin? Pour ton camarade d'école? Pour ton collègue de travail? Oui, bien sûr. Le Seigneur veut que sa maison soit pleine. Et ce serviteur de la parabole avait bien compris le cœur de son maître. Quand il lui dit, on a fait tout ce que tu as ordonné, et il y a encore de la place. Le cœur de notre Seigneur, c'est que sa maison soit pleine. Et il patiente encore avant de revenir. Il y a quelques années, j'avais fait une petite tournée en Angleterre, et j'étais un petit peu découragé peut-être, pas de distribuer, parce qu'on distribuait quand même, mais du résultat. Et j'avais fini par me penser, bon, de toute façon, tu distribues, après ils en font ce qu'ils veulent. C'est leur problème, s'ils ne répondent pas. Et j'étais un petit peu, finalement, négatif. Et en parcourant différentes églises, de différents milieux, j'ai réalisé quelque chose. Quand le Seigneur Jésus va revenir, il ne va pas enlever une poignée de pingouins. Si on croit à l'enlèvement, son enlèvement sera glorieux, les amis, pour aller à sa rencontre. Il y a encore de la place. Dans ce début d'année, je recevais un courrier d'un ami en Suisse. D'habitude, je reçois chaque année des équipes pour distribuer. Et là, il me disait, dans ce courrier, m'invitait à être encouragé, à être renouvelé dans mes forces. Il me disait, dans cette période passionnante. Ah, j'ai trouvé ça super. Les amis, nous vivons une période passionnante. Passionnante. Que nous puissions continuer d'avoir la passion pour le Seigneur Jésus, n'est-ce pas? Bon, on essaie bien de nous déstabiliser, de nous décourager, de nous mettre plein d'handicap. Donc, pour les rencontres, pour les lieux de culte, puis bon, vous savez comme moi, quand notre gouvernement a décidé de bousculer la loi 1905, et ça nous promet quelques difficultés. Mais on vit une période passionnante, c'est vrai, je crois. Le Seigneur Jésus dit, la moisson est grande et il y a peu d'ouvriers. Et s'il dit que la moisson est grande, c'est que la moisson est grande. Elle est grande dans tous nos coins de campagne. Elle est grande dans nos villes. Elle est grande dans les quartiers. Nous sommes invités à prier. Mais j'ai l'habitude de dire, attention si tu pries. Si tu pries, peut-être que c'est toi que le Seigneur va envoyer. Sois prêt à devenir ce serviteur zélé qui dit, j'ai fait tout ce que tu as ordonné et il y a encore de la place. Ne mets pas ta lampe sous le boisseau. Ne compte pas ton temps, ton argent, tes loisirs. Sois prêt à sortir de ton train-train. Sois prêt à laisser bouleverser ton emploi du temps. Et maintenant, je vais devoir faire attention parce que ce que je viens de vous dire, il va falloir que je l'applique à moi-même. Peut-être que nous pourrions avoir juste un petit moment de prière. où on se place devant le Seigneur, chacun et chacune. Et puis, on demande au Seigneur donc de nous conduire, vous ne trouvez pas? Il y a ce qu'il a préparé. Il y a encore de la place, les amis. Il y a encore de la place. Que le Seigneur nous conduise chacun et chacune. Alors, je vous invite à prier.